Bapla, ça va? Une émission de Jean-Paul Mira sur toutes ces questions que nous nous posons tous concernant notre santé, notre bien-être. Les sujets ne manquent pas. Il y a la médecine, enfin, plus exactement, les médecines officielles, alternatives, naturelles, exotiques, asiatiques, médecine des plantes, le magnétisme, la médecine quantique. La liste peut être longue si je voulais être exhaustif. Mais aussi les traitements proposés par ces médecines, notre environnement, notre hygiène, notre alimentation, la diététique, à qui s'adresser, quelles compétences rechercher, où trouver de l'information, de l'aide. Alors, pour cette émission, que je veux être une émission d'information plus que d'opinion, je m'appuierai sur ma formation et ma pratique en médecine traditionnelle chinoise, mais ce ne sera qu'en tant que point de vue, ce qui veut bien dire que toute information dépend justement du point duquel on se place. Accepter les autres points de vue exige d'avoir fait un travail d'information, de réflexion, et d'être capable de prendre position et, dans un esprit d'ouverture, pouvoir participer à la dispute, terme que je préfère à celui de discussion, car il est plus porteur de vie, de nos convictions, et qui mérite d'être entendu. Comme nous devons entendre ces autres points de vue et les personnes qui les portent, avec lesquelles nous faisons société, avec lesquelles nous avons obligation de vivre en bonne intelligence. Vaste programme, aurait dit avec humour et sans doute ironie le général de Gaulle. Mais chacun peut être un colibri, cher à mon ami Moreto. Et je vais essayer d'être aussi un colibri. Alors, l'émission s'articulera autour d'un sujet d'actualité, sujet de la vie de tous les jours, de certains d'entre nous, des sujets qui nous concernent tous, ou tout au moins dont il est utile de connaître. On ne sait jamais, comme on dit. Aujourd'hui, je reparlerai rapidement de l'obligation de vaccination des nouveau-nés à compter du 1er janvier 2018. Cette obligation porte sur 11 vaccins. L'émission Traversée de Christian Moreto du 16 février 2018 sur Occitanie Première en a déjà parlé et vous pouvez écouter en podcast, sur www.occitaniepremiere.fr et ça vous permettra d'approcher les enjeux de cette obligation. Il y aura toujours à chaque émission un thème à approfondir, cœur de l'émission. Choisi, on essaiera en fonction de l'actualité, lorsque ce sera le cas, ou alors avec la présence d'un invité pour nous parler de son expérience, de son expertise et faire mieux connaissance justement d'une de ses médecines, d'un de ses traitements. Et ce que j'aimerais que nous arrivions à faire ensemble, c'est qu'une partie de l'émission soit consacrée à vos demandes et questions que vous pouvez déjà adresser à l'adresse courriel suivante, BAPLA, je vous rappelle l'orthographe de BAPLA, baspla.occitanie@gmail.com. Seront abordés en priorité les sujets les plus demandés, soit des cas très particuliers présentant un intérêt bien particulier. Alors, pour commencer, je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi ce titre de l'émission, BAPLA, en occitan, c'est à la fois une question et ça peut être aussi la réponse. BAPLA, avec l'interrogation, c'est comment va, et BAPLA, ça va être la réponse, ça va. Alors, historiquement, à l'époque romaine pour certains et à la fin du Moyen-Âge pour d'autres, il était de bon ton de s'intéresser à l'état de santé des gens que l'on rencontrait. Mais avec le temps, la phrase exacte a été tronquée de l'essentiel, à savoir « comment allez-vous » en bon français, et on a oublié ce qui faisait le sens de la phrase, c'est-à-dire « comment allez-vous à la selle ?» Car, comme de nos jours, le bon fonctionnement de notre appareil digestif était un signe de bonne santé. Il y a un lien avec les pratiques médicales de ces époques, Nous savons que les médecins de Louis XIV analysaient tous les matins les selles du roi pour décider des soins qu'ils allaient lui donner. L'analyse consistait à les observer, les sentir, palper leur texture et dans certains cas, à les goûter. Eh oui, à les goûter. Cette pratique n'a pas disparu puisque la Sécurité sociale, dans le cadre de la prévention du cancer du côlon, nous demande, en fonction de notre âge, d'envoyer par la poste un échantillon de nos selles. Est-ce une spécialité française ? Et si je vous dis « how do you do ?», la traduction littérale, et « comment faites-vous ?». Et là aussi, il y a des mots oubliés, je vous laisse les deviner. Donc en occitan, c'est « bapla » qui se traduit par « comment ça va ?». Il y a aussi des mots oubliés, là aussi, c'est toujours les mêmes. Ce qui compte, c'est que ce titre que j'ai choisi, parce qu'il peut résumer cet intérêt que je vous porte, est à celui de votre bien-être. Et donc, en occitan, bapla se traduit par « comment va ?». Là aussi, la phrase a été oubliée, escamotée. Ce qui compte, c'est que ce titre, je l'ai choisi parce qu'il peut résumer cet intérêt que je vous porte et celui de votre bien-être. Alors, je vais revenir très rapidement sur l'actualité qui est, je pense, importante à l'heure actuelle pour tous les parents et notamment pour les nouveaux parents de 2018 qui ont l'obligation donc de faire vacciner lors des deux premières années de vie de leur bébé, de leur nouvelle progéniture, donc 11 vaccins. Si cette chose n'est pas faite, et c'est ça que je tiens moi à rappeler parce que c'est important, il y a des contraintes qui sont très fortes. Et c'est une amende, si de mémoire je ne me trompe, c'est 40 000 euros. Il y a deux ans de prison ferme qui peuvent être indiqués. Et également, il peut y avoir perte de son droit d'être parent. Donc, je vous rappelle l'émission de Christian Moreto, traversée du 16 février 2018 sur Occitanie Première, donc www.occitaniepremiere.fr. Vous entendrez plutôt, puisqu'on est à la radio, vous entendrez les différents points de vue. J'y ai moi-même participé. Donc, je ne vais pas vous refaire l'émission de Christian. Écoutez-le. Vous avez une adresse où vous pouvez également nous laisser des messages. Je crois qu'il faut que les parents se posent un certain nombre de questions et qu'avec les associations de parents, un certain nombre d'actions soient menées. Donc j'espère que vous réagirez dans le bon sens. Alors ça peut être toute personne, ça peut être les grands-parents qui vont se poser des questions sur leurs petits-enfants, ça peut être les parents qui ont déjà des enfants plus grands, mais il faut qu'ils pensent aussi à l'avenir et à ce qui peut se poser comme problème pour les nouveaux enfants, et ça peut être bien évidemment les futurs parents. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est de bien avoir une vision sur la médecine occidentale et la médecine chinoise. Ce sont deux médecines qui sont millénaires, qui s'inscrivent dans le temps. Elles sont anciennes, antiques, mais aussi actuelles et modernes. Elles ont évolué de façon différente. Elles portent un regard... Porter un regard sur cette évolution, c'est mieux les connaître, mieux les comprendre, voire peut-être également leur complémentarité. Je vais d'abord citer un peu mes sources. Pour la médecine occidentale, j'ai puisé dans une présentation du professeur Vincent Daniel de l'université Georges Fourier de Grenoble. Pour la médecine chinoise, votre serviteur, praticien en médecine traditionnelle chinoise à Toulouse, à travers l'enseignement de mes maîtres, qui sont Marcel Coste, praticien en MTC et directeur d'une école de formation à la MTC à Toulouse, Christophe Ambrault, praticien en MTC et transmetteur du savoir du docteur Léo Kokuyan, médecin chinois, et il est le 19e médecin de la même famille. Le savoir qu'il a et qu'il transmet lui a été également transmis oralement. Et enfin, Eric Marié, praticien et docteur en MTC, à Nanchang, en Chine, professeur de la faculté de médecine chinoise de Jiangxi et professeur à la faculté de médecine de Montpellier, où il assume la formation au diplôme de troisième cycle de médecine chinoise. Alors, notre regard portera sur les deux grands acteurs de ces deux médecines à partir de documents incontestables et disponibles relativement facilement. Nous allons commencer par la médecine occidentale. Alors, on va essayer de bien séparer les tranches de l'histoire de cette médecine. Vous allez retrouver des noms que vous connaissez. Peut-être que vous verrez apparaître des noms que vous ne connaissez pas. C'est bien aussi pour comprendre comment cette médecine occidentale s'est créée, comment elle a évolué et où elle en est au jour d'aujourd'hui. Alors, au moment de la préhistoire, cette médecine existait déjà. La maladie était conçue comme une punition. On punissait l'individu, mais également la collectivité. Et cette punition était donnée par la volonté d'un être supranaturel, d'une divinité. Et à partir de là, la guérison ne pouvait venir que des sorciers, des prêtres magiciens, des chamans, bien des noms que nous reverrons dans d'autres émissions. Ces personnages servent d'intermédiaires. Ils vont identifier la source du mal, expliquer les raisons de la colère divine et prescrire ce qu'il convient de faire. Lorsqu'on passe à l'Antiquité, on va avoir deux grands personnages. Le premier qui est Hippocrate, qui a vécu entre -460 et -370 environ, puisque là les sources sont moins précises, avant Jésus-Christ. Donc, quelques informations rapides sur Hippocrate. Il est né dans l'île de Kos, en mer Égée. Il fait partie d'une famille qui est attachée au culte d'Asclépios, qui est le dieu grec de la médecine. Et il va donner les bases rationnelles à la médecine, indépendantes de la religion, ou on va dire de la religion des dieux. Et il a également une conception dynamique de la maladie et pour lui, la maladie est un processus. Et donc, Hippocrate va avoir une influence très importante. C'est lui qui parle de la doctrine des quatre humeurs, qui sont le sang, la bile jaune, la tralibe, qui est la bile noire, la pituite ou la lymphe ou le phlegme. Et ces humeurs correspondent, et là, il va falloir s'en souvenir lorsqu'on abordera la médecine chinoise, mais également aujourd'hui, à l'air, le feu, la terre et l'eau, qui sont associés à quatre qualités, le sec, le chaud, le froid et l'humide. Et à cette époque, la médecine occidentale considérait que la santé, la maladie et la santé, c'est une histoire d'équilibre et de déséquilibre. Alors, Hippocrate va faire avancer l'interrogatoire du malade. On n'en est plus à la lecture des chamans qui, dans certains éléments de la nature, lisaient l'état du malade. Et donc, il structure le premier examen clinique. Donc, description des symptômes, recherche des signes cliniques et examen physique du corps. C'est important de rappeler ça parce que c'est vraiment la base de la médecine occidentale. On verra que dans la médecine chinoise, on retrouvera les mêmes termes. Et également, il pose les termes de l'environnement dans lequel vit l'homme, c'est-à-dire le rôle des vents, du climat, de l'alimentation, de l'eau. Et à partir de ces notions de syndrome, il va poser le principe du pronostic. Mais Hippocrate va également s'intéresser à la thérapeutique, c'est-à-dire aux soins. Comment rétablir l'équilibre des humeurs? Alors, il y a les saignées, il y a les vomitives, les purgatifs, les lavements, ça rappelle les souvenirs. Comment, dans cette thérapeutique, soulager la douleur? Il apporte des réponses pour faire la réduction de fractures, de luxation. Il pose des règles d'hygiène, de diététique, d'exercice physique. Et il a été choisi, comme vous le savez, comme patron des médecins. Et il a écrit au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, le serment d'Hippocrate, qui a été toujours utilisé et remis un tout petit peu au goût du jour par l'ordre des médecins. Et vous pouvez trouver ce serment d'Hippocrate sur Internet au site de l'ordre des médecins. Donc, Hippocrate, une influence considérable sur la pensée médicale. Certains disent une véritable école de la pensée, mais on est déjà à un moment très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qui est resté d'Hippocrate ? C'est, je vais retenir deux citations. Hein. Il dit « avant tout, ne pas nuire ». C'est-à-dire que chercher à rester dans la santé, c'est essayer de ne pas nuire à son propre corps. Il n'y aura pas de déséquilibre. Quant au médecin, là aussi, il doit penser à ce que son traitement ne nuise pas à son patient. Et le deuxième, aphorisme d'Hippocrate que j'ai retenu, c'est « soulager en toutes circonstances ». À certains moments, on a oublié que c'était important de soulager le patient et même on est allé vers le fait de dire « mais la douleur est normale ». Deuxième personnage de l'Antiquité, Aristote, que tout le monde connaît, moins 384, moins 322 avant Jésus-Christ, c'est un élève de Platon. Et dans sa démarche, Aristote, la médecine est quand même au second plan. Et il pose des éléments importants, c'est-à-dire que le corps possède une âme. Alors que précédemment, on parlait du corps et on parlait des religions, des dieux, mais on ne posait pas le principe de l'âme. Et il a une chaleur vitale, chaleur qui est créée par le cœur, chaleur également gérée par le cerveau et les poumons, qui sont des organes de refroidissement, et la chaleur cardiaque qui transforme l'air respiré en pneuma, on reverra ça, qui circule, et c'est donc le pouls. Alors Aristote, lui, il va apporter des travaux de dissection sur de nombreux animaux. Déjà, on peut comprendre comment ça marche et où ça va. Une connaissance de l'anatomie et également la finalité des organes. Chaque organe a une fonction particulière. Et il fait également de l'anatomie comparée, et ça lui permet de classer les êtres vivants. Donc, Aristote est intervenu au niveau de la médecine, qui est pour lui au second plan, en posant un certain nombre d'idées, et c'est principalement, il y a le corps, mais il y a l'âme, et on verra que dans l'histoire, ça a été utilisé. Alors, il y a dans cette période de l'Antiquité également d'autres lieux où la médecine s'est organisée et s'est développée. Il y a la ville d'Alexandrie, donc on parle aussi de la médecine égyptienne, que je n'ai pas retenue comme étant une médecine à comparer à l'heure actuelle avec la médecine occidentale, car son évolution, elle a été plutôt absorbée par beaucoup de médecines du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Et son évolution s'est arrêtée à la fin de l'époque des pharaons. Donc Alexandrie a eu une position importante pendant une courte période qui est liée au roi grec, et notamment le roi Ptolémée II, moins 265, moins 247 avant Jésus-Christ. Donc, on y trouve une autorisation exceptionnelle de disséquer. On a des personnages comme Hérophile et Erasistrate qui s'intéressent au rôle de commande du système nerveux, aux fonctions des muscles et également à la circulation du sang. Donc, on a une médecine qui va aller un peu plus loin que ce qui était fait jusqu'à présent. Alors, Alexandrie, on va retrouver beaucoup d'écoles de pensée qui vont devenir des sectes, par rapport à ça, la dissection va être interdite et on va partir sur des prescriptions de remèdes avec des mélanges qui vont être relativement complexes. Après Alexandrie, on avance parce qu'il faut quand même couvrir beaucoup de périodes, il y a Rome. Et là, on va avoir ce qu'on appelle l'école des méthodistes, avec Asclépiade, avec Soranos. Et donc, ce sont des théories fondées sur l'état resserré ou relâché des canaux répartis dans le corps. Des éléments du corps plus ou moins poreux, des corpuscules en mouvement qui provoquent le chaud ou le froid. Donc, on a une méthode qui se met en place pour soigner, et ça va être en fonction de l'étendue, de l'état tendu, ou relâcher des éléments creux du corps. Donc Soranos, lui, c'est le premier médecin accoucheur, c'est le premier siècle de notre ère. On a après des médecins qui... excusez-moi, hein, c'est un petit problème technique. Des médecins qui vont commencer à rédiger des traités de matière médicale, tels que Dioscoride au 1er siècle, toujours au 1er siècle, Cels, qui lui va faire la classification des maladies par régime, par pharmacopée et par chirurgie. Ensuite, à l'époque romaine, l'enseignement de la médecine va s'organiser. On va voir apparaître des sortes d'écoles. Il va y avoir pour les soins les bains, donc les termes romains que l'on connaît bien hein, quand on voyage en Italie et même dans le sud de la France. L'hygiène va être développée, l'herboristerie aussi. Donc vous voyez, on est au 2e, 3e siècle de notre ère pour l'herboristerie. Et vont être créés les premiers hôpitaux, donc les lieux qui vont être spécialisés pour... soigner le patient. Alors, de cette époque, on a Galien et la médecine galiénique. C'est moins. Ça part de 129 à 210 de notre ère, qui lui est influencé par Hippocrate, Aristote et l'école d'anatomie d'Alexandrie. Donc, dissection des animaux et des informations. Le sang se forme dans le foie, les veines transportent le sang, etc. Tout ça se libère. Alors, Galien revient sur les quatre tempéraments, donc les quatre humeurs, le sang, les phlegmes, la bile et la mélancolie, donc les sentiments. Les remèdes sont là pour rétablir l'équilibre. Et lui va rester fidèle à Hippocrate. Hein, et Galien va avoir une influence considérable jusqu'au XVIe siècle. On va voir ce qui se passe. On quitte ce qu'on va appeler l'Antiquité et on va rentrer dans le Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, ça va couvrir quand même une période qui est du 5e au 15e siècle. Donc on a 10 siècles là, de médecine qui vont exister, en sachant qu'on va avoir deux grandes périodes. La période monastique, et là c'est très clair, la médecine s'exerce et s'apprend dans les monastères. Et le principe qui est posé, c'est guérir l'âme avant le corps. Être malade, c'est être pécheur. Donc on revient un peu en arrière et on revient à la préhistoire. Mais il faut se tourner vers le ciel, vers Dieu, pour savoir si on mérite d'être guéri ou pas. Par contre, se développe un certain nombre de structures qui sont les hôtelleries pour les pèlerins, où on faisait donc également des soins, les hôtels-lieux. À Toulouse, nous savons ce qu'est l'hôtel-lieu pour les pauvres, pour les malades. L'époque monastique, la personne qui ressort, c'est Hildegarde de Bingen, qui a fait un travail notamment sur les plantes, sur les simples, c'est-à-dire comment à la fois se soigner et se nourrir, ou se nourrir et se soigner. Donc, cette période monastique, on retrouve les clercs qui soignent et enseignent. La théologie est avant les philosophies et avant la médecine. On ne pratique pas la chirurgie. Il y a, pour exercer cette médecine à côté des clercs, mais à un stade inférieur, on va retrouver les rebouteux, les chirurgiens et les guérisseurs. Et c'est de cette époque, puisque la guérison devait venir du ciel, que beaucoup de maladies vont porter le nom d'un saint. Là, à cette époque aussi, on va trouver une influence importante que, là aussi, en Occident, on a tendance à oublier. C'est l'influence d'une grande médecine qu'est la médecine arabe. Il y a comme personnage important Razès à Bagdad, qui fait un travail sur la description des maladies. Il y a Avicenne, là je pense que tout le monde le connaît, de l'école Persane de médecine, et qui écrit une encyclopédie médicale. Donc cette intervention également dans la médecine arabe, c'est qu'ils vont faire la traduction et la diffusion des textes d'Hippocrate, d'Aristote et de Galien qui étaient écrits en grec, peu traduits en latin, et c'est les Arabes qui vont nous permettre de pouvoir retrouver ces textes et de pouvoir les utiliser. La deuxième période de la médecine au Moyen-Âge, c'est la période scolastique. Donc scolastique, ce sont les écoles. On va, une des plus grandes, c'est l'école de Salerne, près de Naples, au IXe siècle, et qui est une véritable école de médecine, hein, qui a une approche théorique et pratique. On a les encyclopédies, et de l'autre côté, on a les dissections. Et à partir de cette école de Salerne, on va voir se développer toutes les grandes universités à travers l'Europe. Pour la France, on va retrouver trois grandes universités, Montpellier, Paris, Toulouse. L'Occitanie est déjà bien représentée. Pour information, le nom de la Sorbonne vient du collège de Robert Sorbonne. Donc le Moyen-Âge, on reprend les dissections pour mieux connaître comment fonctionne le corps. Galien est toujours celui qui est la référence. Et là, on voit que, je vous rappelle que Galien était fidèle à Aristote et Hippocrate. Et dans cette période scolastique, on va avoir le médecin qui va apparaître. Il a une formation théorique en médecine, en philosophie et en théologie. Mais le point de départ, c'est la médecine. Le médecin diplômé porte une robe longue, le professeur une toque rouge. À côté de ça, mais toujours pareil, à un stade inférieur qui sont exclus de l'université, on va retrouver le chirurgien, le barbier, la sage-femme. Alors, la période scolastique nous a apporté un progrès au niveau du diagnostic, la prise de pouls, l'examen des urines, les fièvres, toutes ces informations qu'on va chercher. Puis également au niveau des traitements, hein, on a les bains, les bains de lait, les bouillons, il y a les saignées. Et on voit là aussi se développer la pharmacopée d'origine végétale et animale. Mais là aussi, il y a un rôle majeur de la philosophie, de l'astrologie et de l'alchimie. Après le Moyen-Âge, parce qu'il y aurait tellement à dire, on pourrait faire une émission pour chaque période et faire la comparaison de l'apport et où ont été les erreurs faites par chaque période. On passe au XVIe siècle, la Renaissance. Le XVIe siècle, c'est les sciences, les arts et l'homme. Il y a l'imprimerie et la diffusion du savoir, une chose très importante. C'est également que le fait que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. On découvre de nouveaux continents. On est à une période où les chrétiens, donc la foi qui dominait l'Occident, il y a vraiment un éclatement. On ne va pas rappeler les différents mouvements. La guerre, elle aussi, évolue. On verra qu'il y a des besoins de chirurgiens. Par contre, ce qu'on peut déjà constater, c'est que malgré cette évolution, les épidémies continuent. Donc, il y a des problèmes qui ne sont toujours pas traités. Donc, le XVIe siècle, c'est le travail sur l'anatomie. C'est apprendre l'anatomie est essentiel à cette époque-là. Et donc, on va voir les artistes, les sculpteurs qui vont produire des œuvres qui vont permettre de mettre en avant cette anatomie. Alors, le père de l'anatomie moderne, je vous le rappelle pour mémoire, c'est Vessal. Et un des élèves de Vessal s'appelle Fallope, qui a donné le nom aux trompes de Fallope que toute personne féminine connaît. J'espère qu'il y a également un certain nombre de messieurs. Le XVIe siècle va également s'intéresser à savoir comment les maladies sont transmises, dont notamment la syphilis. Donc il y a tout un travail qui est fait au niveau des germes vivants et tout ce qui va autour. Hein. À cette époque, on a un personnage qui est important, c'est Fernel, qui est à la naissance de la physiologie. Comment un organe remplit-il sa fonction ? Classification des maladies et traiter des causes cachées. Un personnage très particulier du XVIe siècle, c'est Paracelse et l'alchimie. Il critique, c'est le premier qui va se mettre à critiquer Hippocrate, Galien, Avicenne. Il introduit l'utilisation des métaux en thérapeutique. C'est lui qui dit « c'est la dose qui fait le poison ». Il ne faut pas obligatoirement interdire un élément, qu'il soit minéral, végétal, dont on connaît les caractéristiques toxiques très fortes. Le problème, c'est de bien le doser. C'est également l'époque d'Ambroise Paré et la chirurgie de guerre. Il accompagne quatre rois de France. À cette époque-là, la guerre était intense. Donc, il travaille sur tout ce qui va être pansement, ligature, prothèse. Donc, on rentre dans une médecine très pratique au travers du XVIe siècle. XVIIe siècle est une période de stabilité, de prospérité. C'est la période de construction de Versailles, mais la médecine est bien présente, le malade imaginaire de Molière. Mais c'est également la période où on va retrouver des personnages importants sur l'ouverture de l'esprit, sur la prise en compte de la réalité du monde extérieur. Galilée, Pascal, Newton, Descartes. Et on va voir apparaître deux théories, la théorie mécaniste de l'homme et la théorie chimique. Alors, lorsqu'on revient sur la théorie mécaniste, ça veut dire que vers 1650, on découvre ce qu'est la circulation sanguine. On savait qu'il y avait le sang, mais on ne savait pas comment ça fonctionnait. Ça a été l'apport de Harvey, rôle majeur du cœur dans la circulation, description du système circulatoire. Ça a pu être contesté par certains. Même époque, Malpighi, qui va décrire les capillaires, donc on est toujours dans la circulation sanguine. Et à partir de là, la pensée, c'est de dire que le corps est une machine. Et on va effectivement regarder le corps comme une mécanique qu'on va pouvoir réparer également comme une machine. C'est donc vraiment la fin de la doctrine des humeurs. Là, c'est une remise en cause, qu'on pourrait presque dire épistémologique, de la médecine occidentale. Une rupture importante. Toujours au XVIIe siècle, il y a un certain nombre d'évolutions des idées. On se rend compte que la mécanique ne peut pas tout expliquer. Comment fonctionnent les glandes et leurs sécrétions ? Le pancréas, les glandes salivaires, parotides. Comment fonctionne la digestion, la respiration ? Les alvéoles pulmonaires, composition de l'air, le muscle, le cerveau. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans une théorie qui s'appelle, le nom est barbare, la iatrochimie, c'est François de Boé qui a inventé ce mot, et qui explique que tous les actes vitaux en santé et maladie s'expliquent par des opérations chimiques. Donc on rentre dans la chimie, dans la médecine, c'est la porte ouverte vers ce que nous connaissons aujourd'hui avec tous les grands laboratoires. Donc on a la fermentation, la distillation, la volcalisation, l'alcalinité, l'effervescence, etc. XVIIe toujours, on avance, découverte d'un monde microscopique. C'est les théories de l'embryologie, la conception des humains, comment elle se fait, l'ovulation, l'ovisme, le rôle des animaux, spermatiques. Donc on met également l'homme là-dedans. Et on se pose des questions entre qu'est-ce qu'est la génération spontanée ? C'est quoi l'alchimie ? Voilà, il y a des questions qui restent sans réponse. XVIIe siècle toujours, on a classification des maladies qui permet de créer la nosologie. On rentre dans les parasites, donc la parasitose, et la thérapeutique évolue peu en réalité. La variole, donc au XVIIe siècle, la variole et la peste sont toujours bien présentes et on a tous en mémoire des grands moments historiques, notamment sur la peste, qui sont terribles. XVIIe siècle toujours, il y a une meilleure diffusion des savoirs. Hein. Il y a les sociétés royales de Londres qui se créent, l'Académie royale des sciences à Paris, le collège de chirurgie. Donc, ces savoirs vont influencer les progrès qui vont se faire dans la physique et la chimie sur les savoirs. Donc, on a une relation maintenant qui est science, philosophie, religion. Hein. On est parti de la religion en premier, puis petit à petit, la religion a été écartée et on est à partir du XVIIe siècle avec la science qui est en avant. XVIIIe siècle, pour avancer rapidement, donc on a des progrès en médecine, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus laïques. Malthus, hein, essai sur le principe de la population, Pinel et la psychiatrie, Hahnemann et l'homéopathie, Jenner et la vaccination. C'est là où la vaccine va réussir à protéger de la variole. Alors, XVIIIe siècle toujours, je tourne mes petites pages, on va voir apparaître une prise en charge des accouchés. Donc, c'est la création de l'obstétrique. Il y a des progrès en chirurgie, avec Dessau, avec Pau, on est capable de traiter les hernies, fractures de la cheville, cancer du scrotum, certaines atteintes vertébrales. Et c'est vers la fin du XVIIIe siècle que les chirurgiens deviennent légaux des médecins, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. XIXe siècle. Que nous apporte le XIXe siècle dans la médecine occidentale ? C'est que l'examen clinique devient essentiel. Donc, on inspecte le patient, on le palpe, on fait les percussions thoraciques. Certains vont se rappeler, lorsque le médecin mettait sa main et tapait sur ses doigts, on avait un effet de résonance. L'auscultation pulmonaire. Il y a la naissance de la biologie, avec Bichat, avec Schneiden, Schwemann. Donc, c'est la théorie cellulaire et les traités des membranes. Un petit silence parce que je reprends mon souffle. Le 19e siècle, c'est également la démarche expérimentale avec Magendy, importance des expériences, fonctionnement des organes. Claude Bernard, avec la thèse sur le rôle du foie. Vous voyez, on sait des choses, mais ça ne fait pas longtemps qu'on les connaît. Le raisonnement s'appuie sur des preuves, côté scientifique. Les conclusions s'appuient sur des faits observés. Mais les progrès thérapeutiques, toujours, sont minimes. Donc, on avance sur le savoir, on avance sur le fait de comprendre comment le corps humain fonctionne, mais on n'a pas encore de très, très grandes applications sur la thérapeutique. Au XIXe siècle également, l'enseignement de la médecine se structure. Donc, plus de disparité entre médecins et chirurgiens, je vous l'ai dit tout à l'heure. La formation théorique et pratique avec présence à l'hôpital et en salle d'autopsie. Internat des hôpitaux de Paris en 1803, création d'un corps d'officier de santé et également développement de l'hygiène et de la santé publique. Au XIXe siècle, également, on a la progression de l'examen clinique, ça on a déjà abordé, et apparaissent en plus, ce sont les examens de laboratoire, l'urée, le sucre, l'albumine, le globule sanguin, etc. Et on a également des outils de diagnostic qui apparaissent, l'électrocardiogramme, le thermomètre, l'endoscopie. Voilà, là, toujours pareil, les outils apparaissent. Hein. Au XIXe siècle, on a la biologie cellulaire, la physiologie de la biologie cellulaire qui se développe. Là aussi, on est toujours dans la recherche de la compréhension. Un des grands acteurs de la fin du 19e siècle, c'est Claude Bernard, qui travaille sur le foie et le sucre, sur le pancréas et les graisses, sur le système sympathique et parasympathique, sur le concept de milieu intérieur et de son homéostasie. Donc on est toujours en train d'essayer de savoir, de comprendre et d'organiser. 19e siècle, c'est là où vraiment, à partir du moment où on est rentré dans la vision scientiste, on va voir apparaître plein de nouveautés. Donc on a la microbiologie avec Pasteur, fermentation du sucre, la pasteurisation, découverte du staphylocoque, vaccination contre la rage, création des instituts Pasteur. Il y a Koch aussi, avec, c'est le bacille du charbon, bacille de la tuberculose, vibration du choléra. 19e toujours, il y a des progrès en chirurgie, progrès en anesthésie, contrôle des hémorragies et prévention des infections lors des opérations asepsie et antisepsie. Toujours 19e, il y a des progrès en thérapeutique, les médicaments se diversifient, on voit apparaître des sérums, des antitoxines, des vaccins. Il y a la découverte des rayons X, qui permet le développement immédiat de la radiologie, la radioactivité avec Becquerel, Pierre et Marie Curie. Donc un 19e siècle très, 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 très important. Le 20e siècle, alors on va résumer puisqu'on y est et qu'on va supposer qu'on sait tout. Sur ce 20e siècle, là, on a beaucoup de développement. Toutes les disciplines évoluent et on voit apparaître, c'est un des éléments très importants du 20e siècle, les spécialités et même les sous-spécialités qui fait qu'on va sectionner l'exercice de la médecine. Il y a des progrès technologiques avec l'imagerie, la biologie, l'informatique, tout ce qui va être également la communication. Donc il y a un changement important de la pratique médicale. On avance également sur la thérapeutique pour accompagner les patients. Je vais terminer par le 21e siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a des grandes avancées, l'imagerie médicale, qui permet un niveau élevé de détection au niveau des cancers notamment, l'imagerie fonctionnaire. On a également l'apparition de la communication, c'est-à-dire qu'une information peut circuler très rapidement et être utilisée, notamment dans la robotisation et les robots chirurgicaux. On a également le téléenseignement, est-ce bien, est-ce mal, ça c'est à regarder, le learning, la télémédecine, la visioconférence. Mais le 21e siècle a des grandes questions à résoudre. On est arrivé à une médecine occidentale qui coûte cher, donc qui va être réservée soit à certains cas, soit à certaines personnes. L'exercice de la médecine se complique et on voit que des gens travaillent sur une spécialité sans connaître d'autres spécialités qui ont des effets obligatoirement sur leur sujet. Les risques infectieux et sanitaires sont toujours bien présents et on est confronté également à un allongement de la durée de vie. Voilà le premier tour qu'on peut faire sur la médecine occidentale. On va faire une pause musicale et je vous propose d'écouter une jeune béarnaise. Je vous dirai son nom à la fin. Je vous laisse écouter cette pause musicale.
Fredonnée solitaire, une pauvre bergère d'expression vernaculaire. Un producteur vint à passer dans sa BMW. Bonjour, belle indigène du bassin d'Aquitaine. Vous perdez votre peine avec vos vers et vos rengaines. J'ai un label de World Music, vous y seriez très exotique. Moussu Kenei Harter, de las bostes manières. Anapé à la lèvre, loin de las nostes arribères. Ne bouille pas ça, ni chic ni mic, une musique très hyénique. Charmante béarnaise, je vous trouve bien niaise. Donnez-moi une chaise, que j'ouvre mon attaché 15. Dans mon contrat, y a pas de lézard, vous le ferez lire à Gérard. Alors la grande bringue répondit à ce pingre. Je vous trouve lourdingue, en effet elle était bilingue. Oui mais voilà, il y a un hic, ça n'est pas du domaine public. Avec ce contrat type, franchement moi je flippe. Mes chansons, en principe, je les écris avec mes tripes. Si l'on me prend mes droits d'auteur, quel ne sera pas mon malheur? D'ailleurs, vos pourcentages, disons-le sans embâge, c'est du droit de cuissage. Vous vous croyez au Moyen-Âge. Je vois déjà ce qui m'attend, j'en ai le cœur tout palpitant. On va gagner plein de millions, moi Galatée, vous Pygmalion. À condition que je sois lisse, une gentille Marie-Lisse, avec autant de conversations qu'un pot de yaourt en promotion. Et puis après, pendant un bail, ce qui m'attend, c'est le stand-by. Alors tant pis pour la playlist, moi j'aime mieux la vie d'artiste, avec mon look de vainé, des Pyrénées.
Voilà, vous venez d'écouter Marie-Lys Oriona, une jeune béarnaise qui fait de très très belles choses. Elle ne chante pas qu'en français, elle chante surtout en béarnais, donc en occitan. Je vous la conseille. Nous allons passer maintenant à la médecine traditionnelle chinoise, objet de notre... de notre deuxième partie de l'émission pour que nous la connaissions un peu mieux. Nous avons vu comment évoluait la médecine occidentale. Alors, la médecine traditionnelle chinoise est principalement définie par ses textes fondateurs auxquels tous les praticiens et chercheurs se réfèrent encore aujourd'hui, et par un très grand nombre d'ouvrages classiques rédigés au cours des deux derniers millénaires, qui confèrent à cette discipline une structure théorique très élaborée de médecine savante. De plus, il n'existe pas en médecine traditionnelle chinoise de rupture épistémologique, comme on a vu dans la médecine occidentale, hein, où il y a eu une très grande présence de la religion, puis qui vraiment s'est occupé de la médecine, mais après la religion, et qui a évolué vers le mécanisme et vers la chimie. La médecine traditionnelle chinoise, elle, a évolué au fur de son histoire, et c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que ce n'est pas un système monolithique. Les apports et ajustements successifs se sont opérés d'une façon apparemment plus fluide en Chine qu'en Occident. Aujourd'hui, dans un cours de faculté de médecine en Chine, il arrive que l'on fasse référence à un texte antique conjointement à une publication tout à fait contemporaine. Alors, la médecine chinoise est basée, et son principe de base qui n'a pas bougé depuis le 4e millénaire à peu près avant notre ère, c'est le constat, qui est devenu le principe, que l'homme vit entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire que toutes les variations naturelles qui se passent au niveau de la terre et au niveau du ciel le touchent. Ce qui veut dire aussi qu'il va avoir un cycle dans sa vie qui va suivre le cycle du milieu naturel dans lequel on est. Et toute la médecine chinoise, pour ces textes anciens, font en permanence référence à ça. Rapidement, puisqu'après on va avancer sur une connaissance un peu plus historique de la médecine chinoise, la terre est yin, le ciel est yang, et donc c'est cette recherche d'équilibre entre le yin et le yang qui va permettre d'apporter l'état de bonne santé à l'être humain. Tout déséquilibre entre le yin et le yang amènera obligatoirement une situation de maladie. Donc, c'est une chose très simple, et le yin et le yang est la division de base de l'énergie qui est dans notre corps. À partir de ces principes-là, la médecine chinoise va regarder l'être humain non pas par section, mais en globalité. Le mot utilisé généralement, c'est de façon holistique, et en partant du principe donc que les énergies, l'énergie qui circule, cette énergie qui est ce rapport entre le ciel et la terre, va circuler dans tout le corps, et qu'à partir du moment où il y a un endroit où cette énergie, pour différentes raisons, n'est plus sur une base d'équilibre, trop de chaud, trop de froid, trop d'humidité, trop de matière, la liste peut être longue, il y a un déséquilibre qui se crée, et la maladie peut arriver si on ne le prend pas en compte assez tôt. Et donc le travail du praticien médecine chinoise va être d'abord percevoir s'il y a ce déséquilibre-là. Alors après, il y a toute une série de théories que le praticien chinois peut utiliser, et d'essayer de trouver effectivement, une fois qu'il a été capable d'évaluer ce déséquilibre-là, il va faire une recherche pour dire « mais ça vient d'où ? Ça a commencé où ?» dans le corps ou à l'extérieur du corps, etc. De façon à apporter le soulagement pour l'état actuel, mais également pour traiter la source première, l'état premier, pour permettre que ça ne se reproduise pas. En sachant que, en tant qu'ancien élève de Fermat, j'avais un professeur de mathématiques qui nous disait c'est quoi l'équilibre ? Alors on a cherché, etc. Et il nous a dit, mais ce n'est pas compliqué, c'est une suite de déséquilibres. Ce qui veut dire que aussi dans la médecine chinoise, le fait de soigner quelqu'un, ce n'est pas le guérir définitivement, puisque à ce déséquilibre-là qui a été constaté, on va retrouver dans les jours à venir, dans les années à venir, d'autres déséquilibres auxquels il faudra faire face. Et cette médecine chinoise a plusieurs outils pour apporter ces soins thérapeutiques. Donc, en Occident, on connaît principalement l'acupuncture, mais il faut savoir que l'acupuncture ne représente, dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, pas plus de 20% des soins qui sont apportés. Après, il y a la pharmacopée. Donc à base de plantes. Nous avons vu qu'en Occident, il y a eu des travaux faits sur la partie herboristerie, mais il y a eu quelques petits éléments au Moyen-Âge, puis un peu plus, à la Renaissance. Et cette herboristerie a été interdite en 1945, enfin pendant la période 1940-1945, interdite en Europe, alors qu'on avait vraiment ce qu'on appelle des simples, hein, à la fois des aliments qui pouvaient nous soigner. Dans tout monastère, il y avait un jardin avec les simples. Ensuite, la médecine traditionnelle chinoise va disposer de ce qu'on appelle le massage tuina, c'est-à-dire toujours dans le souci de faire circuler l'énergie, et bien toute une série de techniques pour permettre de lever les blocages, de mieux faire circuler à l'intérieur du corps. Et la dernière technique va être le Qigong, qui est, Qi veut dire l'énergie, et Kong se traduit par le mot travail, qui va être le travail de l'entretien de son énergie. En Chine, le touriste est toujours surpris, il aime bien voir le matin, au lever du jour, dans les jardins de Pékin et des grandes villes chinoises encore, des groupes de Chinois faire toute une série de gestes qui sont à base de Qigong et une variante qui est le Tai Chi. Donc la médecine chinoise a ses outils et qui va enrober tout ça, ben on va avoir l'hygiène de vie et la diététique. Alors, par rapport aux textes anciens, il y a des grands médecins qui sont connus comme étant des médecins légendaires. Donc le mot légendaire veut dire qu'on n'a aucune preuve sérieuse comme quoi ils ont existé. Par contre, les textes qui existent, hein, vous avez par exemple Huang Shi, l'empereur jaune, vous avez Fuxi, hein, le troisième, ils sont trois, hein, Shen Nong, mais ces textes, eh bien, ils n'ont pas été retrouvés. Alors, pour différentes raisons, hein, c'est que la Chine a connu d'abord, beaucoup plus tôt que l'Europe, l'imprimerie, et donc la nécessité de copier les textes qu'on a eus dans tout le Moyen-Âge, même au début de la Renaissance, au moment où est apparue l'imprimerie en Occident, a fait que le besoin de copier des textes n'a pas été nécessaire. Mais par contre, le fonctionnement de la médecine chinoise, c'est que tous les grands médecins, et là on pourrait prendre époque par époque, tous les grands médecins ont récupéré des savoirs qui étaient transmis oralement, et sur ces savoirs, chacun a écrit sa pratique, comment il le faisait, et il a commenter également ce texte-là. Ce qui veut dire aussi que les premiers textes légendaires liés aux médecins légendaires sont des textes qui sont des compilations, donc entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, par des médecins qui voulaient quand même pouvoir discuter, commenter les grands principes qui leur étaient transmis. Et c'est comme ça qu'on a récupéré les grands principes. Il faut savoir que les trouvailles importantes en archéologie datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e, surtout avec des Occidentaux. Mais on a trouvé des textes très, très importants, dont un notamment qui s'appelle le canon de la chambre à coucher. Alors, on est toujours surpris quand on entend ça, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Ben, c'était pour rappeler que dans l'état de bonne santé, la sexualité fait partie d'une activité nécessaire et normale dans la vie de chaque être humain. Il y a là également une énergie importante qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut traiter. Donc ça, c'est un des textes les plus anciens aussi qu'on a en notre possession. Par rapport à la médecine occidentale, Il faut savoir qu'au tout début de notre ère, les Chinois, je vais faire un lien avec la vaccination, ont mis en place la vaccination de la variole, puisqu'ils avaient eux aussi le même problème que nous, et ils l'ont fait à partir de plantes. Ensuite, ils ont considéré que pour que l'être humain puisse faire face à toutes les attaques extérieures, donc tout ce qui n'est pas le non-soi, il fallait qu'il développe son énergie, et notamment une énergie qui s'appelle le Wei Qi, ou le Qi défensif. Alors, le mot défensif est un peu réductif, parce que il laisse supposer qu'on se contente de se défendre contre des attaques, alors que dans la pensée chinoise, il y a bien évidemment ce côté, cette capacité à ne pas laisser pénétrer dans notre corps physique, puisqu'ils considèrent eux aussi qu'il y a un certain nombre de corps éthériques qui entourent notre corps physique. Donc ce Wei Qi qui va être capable d'empêcher cette pénétration du pervers, comme l'appelle le chinois, que ce soit la chaleur perverse, l'humidité perverse. Et puis après, il peut y avoir tous les toxiques hein, que l'on connaît hein, et qu'il connaissait. Il y a dans le mot Wei Qi, il y a également la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que le monde est éphémère, c'est-à-dire tout ce qui se passe a un début et a une fin. Et donc, c'est le changement qui préside à la vie de l'homme. Et l'homme doit avoir la capacité de s'adapter à ce qui se passe, à comment le monde évolue, ne serait-ce que lorsqu'on passe d'une ère glaciaire à une ère plus réchauffée, ou même à l'heure actuelle entre une ère tempérée où on va vers de fortes chaleurs. C'est à l'homme de trouver les réponses pour pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions données par l'état de nature. Même si, dans ce qui se passe à l'heure actuelle, au niveau du réchauffement de la planète, l'homme y est pour quelque chose. Mais du temps des dinosaures, on disait aussi que ce qui s'est passé, c'est que les dinosaures y étaient pour quelque chose, puisqu'ils étaient la population qui était dominante. Donc, ça me permet de faire un lien pour dire qu'en médecine traditionnelle chinoise, ce qui est conseillé, et c'est normal pour l'empire du milieu, c'est ne pas faire d'excès. La notion d'excès, elle est dans les deux sens. Chez nous, excès, on dit c'est trop. Il ne faut pas faire trop de choses. À la limite, on est capable de dire je ne fais plus ça et je ne le fais plus jamais. Alors que pour la médecine traditionnelle chinoise, l'excès, il est dans les deux sens. Si on fait trop, c'est un excès. Si on ne fait jamais, c'est un excès parce que notre corps va manquer d'un certain nombre de choses. Donc la recherche de l'équilibre est également un travail personnel que chaque être doit faire en se confrontant à lui-même, en se confrontant à sa place dans l'univers et à accepter les évolutions du monde comme ses propres évolutions, puisque entre le bébé qui naît et le vieillard qui meurt, c'est le même être, mais il a changé. Et le fait de vivre, ça a été de s'adapter. Donc, pour revenir à cette histoire de la médecine chinoise que je vous résume d'une façon un peu particulière, parce que j'avais le choix de faire la même présentation que pour la médecine occidentale, hein, c'est-à-dire de prendre les grandes tranches, il m'a paru que pour la médecine occidentale, c'était important et de bien montrer qu'on a eu des époques avec des pensées qui ont dominé, qu'on a suivi ces pensées. Et au jour d'aujourd'hui, on continue. On est 100%, on est dans l'excès scientiste et scientifique. Et c'est un excès qui crée des déséquilibres. Ça, c'est la pensée du monde occidental qui s'est développée hein, depuis l'Antiquité. Du côté chinois, il y a eu cette pratique du travail avec les plantes, du travail d'acupuncture, du travail du Qigong, du Tuina, mais toujours dans ce souci d'être capable de retrouver l'équilibre. Hein. Je vous rappelle la tradition chinoise qui était qu'on payait le médecin quand on allait le voir lorsqu'on n'avait rien, lorsqu'on était malade, et il s'occupait de vous et vous ne payez rien. C'était donc bien ce souci de dire qu'il est important de prévoir, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui changent en moi, il y a des choses qui changent autour de moi. Autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour le rétablir? Alors après, il faut vraiment rentrer là-dedans. Deuxième caractéristique de la médecine chinoise, sans vous embêter avec des listes de dynasties et de noms chinois de médecins, c'est que le savoir a été transmis oralement. Je vous disais que dans mes maîtres existe Christophe Andro qui perpétue cette tradition de transmettre oralement le savoir, notamment du docteur Léo Kokuan, qui était le 19e membre d'une famille de médecins. Et ce qu'il avait appris, il l'avait appris de son père, de son grand-père. Alors, il l'avait appris dans la transmission orale, mais également parce qu'il suivait son père et son grand-père auprès des malades. Et donc, c'est toujours la même médecine qui est pratiquée par les médecins chinois. J'ai parlé exprès du Wei Qi en disant qu'il faut la capacité d'adaptation. Et dans la capacité d'adaptation, les Chinois sont capables aussi de dire le monde change. Il y a des avions, on va construire des avions. Il y a une médecine occidentale qui est superbe. Je vais construire des hôpitaux. En Chine, vous avez des hôpitaux de médecine occidentale et vous avez des hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise. La formation d'un médecin qui dure aux alentours de 15 ans et un cursus de médecine, occidentale, avec en parallèle une certaine formation sur la médecine chinoise. Et puis ensuite, ils choisissent soit de continuer la médecine occidentale, soit de partir vers la médecine traditionnelle chinoise. Et cette capacité d'adaptation de la médecine chinoise, c'est de dire, avec les technologies que l'Occident a mis au point, et ça, ils savent récupérer très vite ce qui est efficient, eh bien, il y a toute une série de gens, de médecins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des médecins chinois, il y a maintenant des médecins occidentaux en médecine chinoise, c'est de dire, mais si on reprend les textes anciens, est-ce qu'en réalité cette maladie qui apparemment on a découvert, est-ce qu'on ne peut pas le traiter en appliquant nos textes anciens? Et je dois dire qu'à travers ma petite expérience, régulièrement, effectivement, les textes anciens expliquaient. Le cancer était connu au 3e siècle avant Jésus-Christ de la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui fait que les Chinois ont eu et ont encore leur période scolastique, c'est-à-dire qu'il y a des écoles. Hein, c'est-à-dire vous avez des médecins qui vont vous dire... Moi, je fais partie de l'école de la chaleur, c'est-à-dire que tout problème qui va être présenté par un patient, ils vont le regarder avec cette problématique. Il y a de la chaleur, il n'y a pas de la chaleur. S'il y a de la chaleur, quelles sont les conséquences, etc. On rentre dans le détail. Vous avez l'école du froid, vous avez l'école du sang, vous avez l'école du qi, l'école du yin et du yang. Et on peut décliner comme ça. Et les gens travaillent à partir des textes anciens et à partir de la pratique, hein, c'est-à-dire que le savoir d'un médecin chinois, c'est la théorie et la pratique. Parce que la théorie sans pratique, mais grosso modo, elle ne sert à rien, et la pratique sans théorie, elle peut devenir dangereuse. Et donc, c'est créé depuis les années 50, une nouvelle école qui est l'école de la convergence. C'est-à-dire ce sont des médecins chinois qui se disent « Bon, ben, voyons voir ce qui nous arrive de l'Occident et voyons voir ce que disent nos textes et comment on va réussir à est-ce qu'on retombe dessus ou est-ce que c'est vraiment une nouveauté ?» Et c'est également rester fidèle à la philosophie dominante de la médecine traditionnelle chinoise qui est le taoïsme, qui est de dire L'homme, pour avancer, doit s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs, le père, le médecin, etc. Et l'école de la convergence permet effectivement, et c'est l'école que j'ai choisie en complément, hein, c'est de dire comment on arrive à faire le pont en permanence entre ces deux médecines qui sont deux médecines magnifiques, vous l'avez vu, je l'espère, et vous l'avez compris à travers cette émission, qui ont eu deux histoires différentes, qui au jour d'aujourd'hui travaillent ensemble, hein, puisque même le chi, même lorsqu'on fait de la méditation, eh bien, il y a des mesures scientifiques qui sont faites pour bien démontrer que ce dont on parle a une matérialité. Pour l'acupuncture, les Vietnamiens, depuis maintenant plus de 50 ans, ont mesuré électriquement le flux énergétique correspondant au point d'acupuncture. Donc, je voulais commencer cette série d'émissions qui va porter sur toute une série de pratiques en présentant pour moi ce que sont les deux médecines à l'heure actuelle majeures. Et on ne peut pas avoir une pratique de soins si on n'a pas conscience de l'existence de ces deux médecines et de ce qui peut être fait. Je peux constater tous les jours, en discutant avec d'autres thérapeutes dans d'autres techniques, que les points d'acupuncture, presque tout le monde en a entendu parler, que les méridiens, presque tout le monde les utilise. Je vois aussi que dans les hôpitaux, pour traiter les cancers, eh bien, l'acupuncture n'est pas écartée. On forme des médecins occidentaux à une technique de base sur l'acupuncture. Et je vois aussi que les Chinois, de leur côté, intègrent totalement les toutes dernières nouveautés de la médecine dite occidentale, et qu'ils ont des chercheurs qui également produisent des documents dans les grandes revues scientifiques. Voilà. Cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle d'un sujet, vous pouvez utiliser le mail bapla.occitanie@gmail.com. Bapla, B-A-S-P-L-A, point Occitanie, ça vous savez l'écrire. Cette émission a été réalisée avec l'aide bienveillante, puisque quand on fait de la médecine chinoise, on parle de bienveillance, avec la présence et la technique bienveillante de Jean-Louis Arzac. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à dans 15 jours. Mm-hmm.